Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici donc de nouveau ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. La première fois qu'Hélène rencontre Patrick, il a la jambe plâtrée. Elle a 18 ans et porte une robe Vichy. Une cousine se marie. Hélène a mis des talons, ce qui n'est pas son habitude, et lui donne l'air un peu gourde. Une maladresse de girafon. Les autres filles jasent dans son dos. Avec sa sœur, elles font bloc. Hélène a l'habitude de voir les autres filles l'envier et médire. Avec ce cul, ce visage, cette chevelure de scandale, elle sait qu'elle menace les équilibres mineurs, des positions et des conforts. Hélène pourrait, par exemple, si elle le souhaitait, mettre Bernard Claudel dans son lit, alors qu'il sort avec Chantal Gomez depuis presque 18 mois et qu'ils se marieront l'année suivante. On dit la salope, ce qui signifie qu'elle est une menace et qu'elle peut régler certains problèmes à l'aide de son corps. Le terme « salope » détermine ici une puissance injuste qu'on lui envie et qu'on voudrait juguler par précaution, de crainte de voir certaines choses auxquelles on tient devenir soudain fragiles, du sable. La morale, en l'occurrence, poursuit un projet politique qui ne dit pas son nom, celui de contenir les possibilités de désordre que recèle Hélène, de restreindre les effets de sa beauté, de rabattre cet excès de pouvoir dont elle dispose grâce à son cul. Gérard n'a pas pu venir à cette noce au cours de laquelle Hélène rencontre Patrick. Il ne voit donc pas ces regards qu'ils échangent. Avec cette jambe immobile, Patrick est bien embêté. Il ne peut pas danser, il reste dans son coin, il a l'air triste ou songeur, ce qui lui donne un petit côté Mag Brandt, assez craquant. Quand la noce se dispersera, Hélène trouvera le moyen de monter dans la Simca qui ramène Patrick chez lui. Après ça, il faudra se revoir en cachette, concilier les familles, s'assagir, ce sera facile. L'amour peut tout à ce moment-là de leur vie. Plus tard encore, ils prendront un petit appartement et feront des projets, une famille, deux bagnoles, vivre là, ce sera parfait. En tout cas, Hélène ne reverra plus Gérard. Elle apprendra 20 ans plus tard qu'il est effectivement parti travailler à l'étranger, en Tunisie, en Égypte, jusqu'en Inde. Devenu soudeur de haut vol, il sera employé par des entreprises aéronautiques, nucléaires ou agroalimentaires. Peu à peu, celles-ci deviendront plus puissantes que des États et garantiront à Gérard des conditions de vie et des protections qu'octroyaient jadis des nations battant monnaie et déclarant des guerres. Hélène apprendra que Gérard s'est installé en PACA, dans un village pas très loin de Martigues, où il a fait construire une villa de 2 étages avec une piscine et qu'il conduit une Audi. Qu'il s'est marié à une Antillaise aux cheveux courts, ce qui ne l'a pas empêché de voter pour le FN une fois ou deux. Deux enfants, des copains, des calculs rénaux, un voisin qui l'emmerde avec la hauteur de la haie. Gérard ne s'ennuie pas. Hélène apprendra qu'il a contracté la passion des voyages, ce qui signifie qu'une fois par an, il va vérifier sur place l'existence de paysages qu'il a vus à la télé, Vegas, Madagascar, le Vietnam. Hélène apprendra tout ça à l'occasion d'un enterrement. C'est toujours là qu'on croise les vieilles connaissances. Hélène sent venir ce second souffle qu'elle attendait. La difficulté s'amenuise, laissant la place à un sentiment ample de délassement et de regain. Elle se dit qu'elle peut encore faire 1000 mètres sans problème. Ensuite, elle se sentira mince et ragaillardie. Il suffisait de surmonter ce moment ingrat où le corps renâcle et l'esprit s'ingénie. À présent, tout va bien. Hélène a bientôt 40 ans. Il arrive encore qu'on dise « la salope », mais c'est plus rare. Elle a de beaux restes, et on ne voit pas pourquoi elle devrait cacher ses jambes, son ventre ou bien son cul. Surtout, elle veut encore sa part d'amour. À cette pensée, elle sourit dans l'eau qui garde le secret de son appétit invariable pour les hommes. Parfois, quand elle est en voiture, il lui arrive de devoir s'arrêter en catastrophe sur le bord de la route pour se caresser et jouir très vite, tandis qu'un semi-remorque de 32 tonnes passe en tromble et secoue l'Opel cadette. Dans son ventre, tout est encore là, intact. Son besoin de main et de regard, et entre ses jambes la possibilité d'un plaisir qui échappe au règlement intérieur du bureau, au code de la route, à son contrat de mariage et à la plupart des autres lois. On ne lui enlèvera pas ça. Hélène a couché quelque temps avec un collègue du boulot. C'était un garçon sans histoire, qui portait des chemisettes Eden Park et des pantalons à pinces. Elle le voyait passer quand il allait prendre son café. Il avait des jolies fesses et des cheveux, ce qui, passé un certain stade, tient lieu de tout. À la fête de Noël, elle avait trop bu, et au moment de dire au revoir, elle l'a plus ou moins embrassé sur la bouche. Ils ont commencé à se tourner autour. Un soir, au moment des bilans de fin d'année, elle est restée plus tard. Et il a attendu, enfermé dans son bureau. Ils ont fini par se trouver et se sont embrassés à pleine bouche. Hélène avait presque oublié. Comme des gamins. Des pelles accélérées et fébriles, avec les doigts qui s'accrochent et le cœur paniqué. Hélène se dit que 30 longueurs, c'était déjà bien. Elle rejoint le bord avec au cœur ce sentiment si plaisant du devoir accompli. Pendant qu'elle nageait, des gamins sont arrivés, seuls ou par deux, des garçons et des filles, entre 15 et 17 ans. Ils se sont installés sur les degrés de béton qui font des gradins le long du bassin. Elle en connaît quelques-uns de vue. Dans le coin, on finit toujours par reconnaître un visage. En les regardant, Hélène a comme un pincement. Ils bavardent. Ils sont de bonne humeur, insouciants et parfaits. L'eau et les heures d'entraînement ont fabriqué ces corps faits pour la vitesse, les filles et leurs cuisses fuselées, leurs épaules larges, les garçons avec leurs têtes d'enfants perchées sur des bustes de culturistes. Bonne joueuse, Hélène sourit et rejoint sa chaise longue. Elle se laisse sécher au soleil. L'entraîneur est arrivé et distribue ses consignes aux nageurs qui vont ensuite s'aligner derrière les plots. Les premiers plongent. Les autres suivent, synchroniques et dociles, soulevant à peine quelques gouttes quand ils pénètrent dans l'eau. Elle observe leurs longues coulées sous-marines. Bientôt, les deux lignes sont encombrées de leurs bâtiments réguliers. Ils vont vite, sous le soleil, ils sont jeunes. Et mourir n'existe pas. Hélène se plonge dans son magazine et laisse vagabonder son esprit. Il est plus de 11 heures et les abords de la piscine commencent à fourmiller de monde. Après le déjeuner, elle somnole un moment sous le parasol. Vers 15 heures, une sorte de torpeur s'abat sur le bassin. La chaleur est accablante. Pour se rendre aux toilettes, il faut marcher sur la pointe des pieds. Les gens cherchent l'ombre. Dans l'eau, un magma d'enfants qui éclabousse et s'époumonne. Un peu avant 16 heures, ce grand type aux yeux clairs arrive, avec une drôle de dégaine encombrée, roulante, genre John Wayne ou Mitchum. Hélène ne l'attendait pas spécialement, mais elle espérait quand même un peu sa venue. Il va déposer ses affaires sur les gradins avant de se baigner. Hélène est une habituée de la piscine, et lui aussi. Une fois, avec Lynn, elles se sont bien amusées à le mater et à imaginer des trucs, son métier, son nom, sa voix, les bruits qu'il fait pendant l'amour, s'il a des gosses et ses petites manies, ce genre de choses. Elles lui ont même trouvé un surnom, Tarzan. Ce grand corps, robuste et maladroit. Hélène le regarde nager un moment, puis l'oublie. Quand il ressort du bassin, elle observe ses longs bras, ses épaules larges, l'eau qui ruisselle sur son ventre. Il jette alors un regard dans sa direction, et un grand vide se fait dans l'estomac d'Hélène. Elle revient précipitamment à son magazine. Elle voudrait se cacher. Il va venir. Il vient. Évidemment pas. Il a regagné sa place et se sèche avant de quitter la piscine. Une prochaine fois. Elle est ridicule et s'amuse comme une gamine. La parenthèse était finie. En rentrant, Hélène se sentait encore légère comme une plume. Elle conduisait lentement, peu pressée d'arriver, un coude dehors. À la radio, une chanson triste de Dalida. Elle aurait dû organiser ça plus souvent, ces escapades qui lui faisaient un bien fou. En passant devant la maison de ses beaux-parents, elle se souvint d'un réveillon avec toute la famille, d'après-midi passé à table. Ils étaient morts depuis pas mal de temps maintenant, tout était là, chaque rue épelait son histoire, chaque façade énonçait un souvenir.
J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis il m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elles me bottent. Je parie que c'est les Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo. Je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson mecton, il est pas bidon. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te chouraverai ton blouson. Moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. T'as le même blue jean que James Dean, t'y arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Après la musique, toujours, le roman de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Hélène glissa devant la caserne des pompiers qu'on tourna l'école primaire et son regard fut attiré par un long filet de fumée noire qui montait au loin. À mesure qu'elle approchait de la maison, elle le vit grossir et commença à renifler des effluves de plastique fondu et de carburant brûlé. Un pli soucieux s'était creusé entre ses sourcils. C'était tout près de chez eux. Elle se mit à prier pour qu'il ne soit rien arrivé. Une fois dans le lotissement, elle traversa deux pâtés de maison avant de découvrir un attroupement de voisins. Tous regardaient le feu. C'était la moto qui cramait, cassée, fondue, reconnaissable entre mille. Hélène tira sur le frein à main et sortit de la voiture sans même prendre la peine de refermer la portière derrière elle. Ses jambes la soutenaient à peine. Les gens la regardaient venir. Elle avait une mine superbe. Ses cheveux flambaient, électrisés de chaleur, devenus fous après sa baignade. Sur son passage, quelqu'un précisa que c'était encore un coup de ces petits bicots. Une voix l'appela « Hélène !» Evelyne Grandemanche venait de s'extirper du petit groupe des curieux, son éternelle gauloise à la main. Elle portait un chemisier blanc sur lequel la fumée avait laissé un sombre coup de langue. Elle était complètement catastrophée, tremblante. Elle bafouillait. « Votre mari vous cherche partout, il a pris le camion, il vous cherche partout !» Hélène pensa à son fils et se précipita vers sa voiture. « Attendez !» dit Evelyne. « Qu'est-ce qu'on va lui dire ? Je reviens tout de suite !» promit Hélène. « Les pompiers arrivent, attendez !» Mais Hélène était déjà repartie. Elle devait retrouver Anthony. Elle était tellement paniquée, il lui fallut presque une minute avant de passer la seconde. Pour démarrer un scout, quand on n'a pas la clé, un tournevis suffit. Anthony avait piqué le sien chez Roman, l'atelier de réparation situé rue du Général Leclerc. Il y passait de temps en temps pour regarder bosser les mécanos. Didier l'autorisait parfois à prendre une bécane pour faire un tour. C'est comme ça qu'il avait pu conduire une CBR 1000. C'est comme ça qu'il avait pu conduire une CBR 1000. Ces engins-là vous envoyaient directement sur la Lune. En attendant, il marchait dans le centre-ville, son sac à dos sur les épaules, son tournevis dans la poche. Il allait vite, le regard fixe. Il était passé chez Manu, et celui-ci avait paru ravi de le dépanner. « Je te l'avais bien dit, avec ces gens-là, t'as pas 36 solutions dans son dos. » Le poids du Mac 50 ne faisait aucun doute. Après avoir longé le boulevard Sainte-Catherine, il prit par la rue Michelet. Au bout, il vit ce qu'il cherchait. Des deux roues alignées sur un trottoir. Il y en avait toujours devant le métro. En approchant, il compta trois scouts et une mob. Seule la 103 bénéficiait d'un antivol. Dans ses poches, il lui restait un billet de 50. Il se dit qu'il pouvait aussi bien faire une dernière partie de flipper avant d'y aller. Il poussa la porte du métro. À l'intérieur, deux rangées de bornes d'arcade et des joueurs jeunes, surtout des mecs, qui s'escrimaient précipitamment dans une atmosphère irrespirable. Au fond, un vaste miroir prolongeait la perspective et reprenait le chatoiement enfumé des écrans électroniques. Le proprio se trouvait à mi-chemin dans une espèce de cage vitrée. Son job consistait pour l'essentiel à faire de la monnaie en fumant des Marlboro. Les ados venaient d'ailleurs autant là pour fumer à l'abri des regards que pour jouer à Shinobi. L'endroit était plutôt clairsemé à 7h, mais le samedi après-midi ou après les cours, c'était la cohue. Anthony demanda des pièces de 5 et se dirigea vers les flippers qui se trouvaient tout au bout. Il se voyait venir dans le miroir une silhouette courte dans le bâtiment bleu des écrans. Il mit 20 balles et joua brièvement, mal, la tête ailleurs, les billes coulant les unes après les autres. Il acheta encore 5 crédits avec le même résultat. Après avoir essuyé ses mains sur son jean, il hésita un moment. Deux meufs surmaquillées sirotaient du coca près de l'entrée. Là-bas, deux garçons s'excitaient sur un jeu de baston japonais muet en nage. Le plus petit pianotait à une vitesse véritablement phénoménale et de temps en temps, une goutte de sueur glissait le long de son nez avant de s'écraser par terre. La musique s'interrompit, le temps de changer le CD, et on entendit alors le ronron puissant de la soufflerie. Anthony fit une dernière partie, tout aussi calamiteuse, en écoutant les Beach Boys, puis asséna un coup de latte dans le flipper qui tilta en clignotant avec ostentation. Il n'avait plus une thune. Il se sentait nerveux, irrésolu. Son ventre le faisait souffrir depuis des heures maintenant. Il faut dire que depuis la veille au soir, les choses avaient pris un tour assez définitif. Anthony se prenait une petite frite à l'Antalaya quand sa mère avait déboulé de nulle part. Avec sa bagnole, elle n'avait pas hésité à faire demi-tour et à traverser le terre-plein pour le rejoindre. Au passage, elle avait failli emporter une partie de la terrasse et deux clients. « Monte ! Qu'est-ce qui se passe ? Monte, je te dis !» Anthony avait obéi en vitesse. Sa mère le cherchait depuis un bon moment déjà. Elle était défaite, les cheveux n'importe comment, son sac à main était renversé par terre, un rétro de la bagnole pendait dans le vide. Il avait bien envie de lui demander ce qui se passait, mais elle manœuvrait pour reprendre la route. La direction de l'Opel était super dure, tout le monde la regardait pour un peu, elle se serait mise à chialer. Plus tard, elle annonça « On va aller chez ma sœur. Il n'y a plus de moto, ils l'ont brûlée. » Elle lui raconta tout. Et pour Anthony, ce fut presque un soulagement. Le monde du fait accompli n'était pas sans avantage, après tout. Au moins, cette hantise de la catastrophe n'avait plus lieu d'être. Il fallait maintenant s'organiser, gérer l'intendance, penser à l'argent, aux vêtements, à la nourriture, où on allait dormir. Après une semaine d'apnée, ça ressemblait presque à du mieux. En leur ouvrant la porte, Irène n'en était pas revenue. Depuis le temps que les frangines ne se parlaient plus, elle leur avait offert du thé et du cake. Au fond, le rôle de l'hôtesse magnanime était sa chance. Elle ne donnait jamais mieux sa mesure que dans le mélodrame. À un moment, le téléphone s'était mis à sonner, et autour de la table, on s'était dévisagé longuement sans rien dire. Puis, le cousin avait pris sur lui de fermer les volets du rez-de-chaussée. Ça donnait l'impression d'attendre une tempête tropicale. Mais le père n'était pas venu. Le téléphone avait sonné encore et encore. Irène avait fini par débrancher la ligne. Vers minuit, une paix lourde était tombée sur la maison et on avait pu manger un morceau. Du blanc de poulet, un peu de fromage, des abricots tout gonflés d'un jus qui laissait le menton et les mains collants. Il faisait encore chaud. Progressivement, la nuit s'était enroulée autour d'eux. Ils s'étaient mis à bâiller malgré l'angoisse. Il fallait dormir un peu. Irène avait déplié le canapé et installé un matelas par terre dans le salon. Hélène n'avait pas pu fermer l'œil. Elle avait retourné tout ça dans sa tête des heures durant sans trouver d'issue souhaitable. Au matin, la famille s'était réunie au grand complet dans la cuisine pour le petit déjeuner. Hélène et son fils ne disaient rien. Ils ne pouvaient ni partir ni rester. Tels des réfugiés, ils dépendaient maintenant de la bienveillance révocable d'une puissance étrangère. Or, Irène avait son idée de la suite des événements. Il fallait appeler les flics, des associations, un avocat, délecter, elle venait, et je reprends. Délectée et venimeuse, elle disait en parlant de son beau-frère, « Ce salaud, cette brute, le fumier !» Hélène ne répliquait pas. L'air sombre, elle se contentait de tourner sa cuillère dans son café. Peu à peu, elle s'accoutumait à l'ampleur des dégâts et construisait des solutions administratives et pratiques à son malheur. Au bout d'un moment, Anthony avait quitté la pièce, attrapé son sac à dos et s'était tiré par la fenêtre de la salle de bain. À présent, il se dévisageait dans le grand miroir glauque du métro. Une paix étrange flottait dans sa poitrine. C'était l'heure. Machinalement, il toucha son œil droit et prit la direction de la sortie. Dehors, il choisit le scout le plus rapide. Les abords étaient déserts, il fallait faire vite. Il commença par retirer le carénage à l'aide du tournevis, puis comme l'une des vis lui résistait, il planta l'outil pour faire levier et le plastique céda avec un craquement désagréable. Une nouvelle fois, il vérifia que personne ne venait. La rue étroite dressait 500 mètres de murs indifférents. Un peu de sueur trempait ses mains. Il fit jouer son tournevis, puis empoigna le guidon pour briser sa résistance d'un coup sec. Il n'avait plus qu'à actionner le kick. Il donna un coup franc et le moteur se mit aussitôt à japper. Les gaz, en passant par le pot quitté, rendaient un son coupant, suraigu. Ce bruit familier alerta le propriétaire qui sortit du métro en courant. « Et !» C'était un mec en pantalon de survêt et casquette, un de ces lascars rustiques qui croisent sur les départementales périphériques, à dos malingres, hardis, laids à faire peur et enragés de bruit qui font le malheur des retraités et le contingent des lycées professionnels. Voilà, nous avons terminé pour ce soir et nous retrouverons demain les personnages du roman de Nicolas Mathieu, leurs enfants après eux. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guillon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.